Bonjour et bienvenue à la conférence de presse publique du Festival d'Avignon. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler danse avec Rachid Ouramdan d'abord, ensuite Nassera Belaza et François Chéniaud. Alors Rachid Ouramdan, vous êtes chorégraphe, danseur. Vous êtes venu il y a quelques années au vif du sujet avec le solo Skull Cult avec Christian Rizzo. Et vous revenez cette année avec deux spectacles, Loin, dont on reparlera, mais qui précèdent chronologiquement celui que vous donnez là, qui est une création des Témoins ordinaires à la Chartreuse, qui se joue du 19 au 28 à la Chartreuse à 18h et du 20 au 22 à 14h30. C'est toujours délicat de parler des spectacles dans l'ordre inverse de leur création, mais on va se concentrer sur des témoins ordinaires. D'où vient ce titre et ce spectacle plus particulièrement ?
Comme vous l'avez dit, des témoins ordinaires fait suite à une autre pièce qui s'appelle Loin, et une pièce qui m'a amené à me confronter à des récits de torture, des personnes qui avaient connu des actes de barbarie. Pour Loin, c'est quelque chose qu'on a abordé, mais que j'ai préféré laisser de côté pour différentes raisons, et vu qu'on parlera de Loin une prochaine fois, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais en tout cas, c'est devenu une nécessité pour moi, suite à ces rencontres, à ces témoignages, d'essayer de penser une forme qui puisse faire le récit d'une expérience pareille. D'essayer de penser des images, des formes de présence, de retravailler les mots parfois, pour voir comment on peut aborder cette chose que l'on dit souvent comme indicible, inimaginable. Et je suis parti à la rencontre de différentes personnes qui avaient donc connu des actes de torture, soit des réfugiés politiques qui vivent aujourd'hui en France, soit des personnes que j'ai rencontrées essentiellement au Brésil. Et en compagnie d'une documentariste avec laquelle je travaille, on a questionné ces personnes sur la vie d'après cette barbarie, c'est-à-dire la possibilité de reconstruire un sentiment d'humanité, de se reconstruire tout simplement. Et c'est ce qui a organisé la construction de la pièce.
Est-ce qu'on peut parler d'un premier travail documentaire, presque de danse documentaire, en tout cas de saisie documentaire, de témoignage?
C'est documentaire. Je préfère parler de portrait, en fait, dans la mesure où souvent les événements qu'on aborde sont pas tant pour revenir sur les moments de l'histoire auxquels sont rattachés. Leur vie, les grands mouvements de guerre dans lesquels ils se sont retrouvés engagés. Donc c'est pas tant cet aspect-là, c'est beaucoup plus... Ce qui m'importe, c'est de voir les traces que laissent dans l'intime, dans l'affect des personnes qu'on rencontre, ces événements. Et donc c'est plutôt une... je me focalise vraiment à cet endroit-là. Et alors bien sûr que les personnes qui m'accompagnent issues du milieu du documentaire ont une expérience que je n'ai pas pour aborder des sujets tels que cela, pour entrer en dialogue avec des personnes qui parfois ont du mal à témoigner, ont du mal à s'ouvrir. Et mais finalement, ce qui c'est délicat parce que, en fait, cette notion de documentaire aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, mais en tout cas, vu qu'en aucun cas je ne révèle quelque chose de particulier, si ce n'est la sensibilité d'une personne, j'ai plutôt l'impression de faire un portrait que de réaliser un documentaire.
Et vous en gardez une trace qui est à la fois de discours, de parole, et aussi une trace d'image filmée. C'est parce que vous allez retravailler ces deux matériaux-là spécifiquement, ou quel est le statut de cette trace que vous gardez de ces rencontres, de ces portraits?
En fait, quand on a commencé cette création, j'avais pour projet de de filmer les gens, pour une raison d'abord très simple, c'est-à-dire que plus on réalisait des interviews, plus je me rendais compte combien le fait de redire, de parler de ce par quoi ils étaient passés est souvent synonyme de souffrance, même si c'est des personnes qui aujourd'hui ne se considèrent plus comme victimes, en tout cas celles que j'ai rencontrées ont fait un travail depuis. C'est des personnes qui sont tout le temps dans ce grand écart-là, c'est-à-dire le besoin de témoigner, le besoin de continuer de dénoncer, d'informer l'opinion publique sur ce qui leur est arrivé, et en même temps la violence personnelle que c'est à chaque fois de faire rejaillir ses souvenirs. Donc très vite, constatant cette chose-là et voyant la difficulté que c'est, j'ai pas souhaité faire venir ces gens sur scène. J'ai pas souhaité que ces personnes tous les soirs aient à revivre cette souffrance. Donc on a opté pour un dispositif vidéo. En même temps, au fur et à mesure de l'avancée de la pièce, je me suis rendu compte que ce qui était le plus important, c'était d'entendre, c'était de prendre du temps avec ces personnes et de laisser résonner ces témoignages, et qu'il est très difficile d'avoir une image pour accompagner ces récits-là. Bon, bien sûr, parce qu'on ne s'inscrit pas dans une stratégie d'illustration de ce type de récit. Ce qui m'importait, c'est vraiment de partager les modifications psychologiques de ces gens, ces choses qui n'ont pas vraiment des images, qui sont plus quelque chose de l'ordre du ressenti. Et donc voilà, très vite, les images, on les a un peu abandonnées, on s'est focalisé sur les voix, et aujourd'hui, c'est essentiellement ce qui reste, c'est-à-dire des fragments de récits qu'on a plongés dans une écriture où le spectateur rentre dans une temporalité assez étirée, quoi, je l'espère. J'espère que c'est ce qui va se produire, et soit à un moment pour recevoir ces paroles, et ensuite à un très très long moment pour pouvoir le laisser résonner et le digérer en fonction des déplacements de corps qui là sont réalisés par les interprètes sur le plateau.
Dans Loin, vous êtes à la fois l'interprète unique et vous êtes aussi écrivain, au sens où vous avez écrit un texte spécifique pour le spectacle à partir du récit, qui est un récit qui part de l'expérience de votre père. Est-ce que c'est le même principe ici dans Des témoins ordinaires ? Est-ce que vous-même avez pris la plume, la parole pour relayer celle de ces victimes ?
Non, en fait, autant pour Loin, il y avait donc dans les personnes que je rencontrais, que j'interviewais sur l'héritage du colonialisme, sur des personnes de différentes générations qui analysaient, qui filtraient comment ces violences de l'histoire s'étaient déposées en eux. Bien sûr qu'il y avait une sorte d'identification, particulièrement lorsque je rencontrais des gens de mon âge, des personnes qui n'ont pas connu la colonisation mais qui quelque part en héritent, avec tous les métissages culturels que ça a provoqué parfois, les exils. Et c'est vrai qu'en face de cette mémoire-là, j'ai été un peu aspiré par des avalanches de souvenirs, par une mémoire qui jaillissait de façon fulgurante, et j'ai eu la nécessité d'écrire pour répondre à ces témoignages-là. Là, c'est pas le cas, je crois, de par la nature du sujet, c'est-à-dire, même si dans Loin, j'aborde déjà la torture, de par le fait que mon père a été torturé en Algérie, et c'est ce qui commence le spectacle, et c'est ce qui a un peu amené à ce que je fasse Des témoins ordinaires. Mais là, j'étais moins dans un rapport d'identification par rapport aux gens que je rencontrais. Et non, au contraire, je crois que j'ai essayé, c'est toujours compliqué que de faire ça, mais de faire une pièce que, bien sûr, on signe, que bien sûr assume un point de vue sur un sujet, assume une écriture, mais qui en même temps tente d'être une pièce porte-parole d'autres types de témoignages. C'est aussi ce qui a existé dans Loin, et c'est ce qui est difficile quand on travaille avec des matériaux type les interviews ou ce que vous pointiez tout à l'heure, ces choses qui ont une dimension documentaire, c'est comment composer cette prise de parole, ce jeu, entre autres dans le solo, à partir de fragments d'histoire d'autres. Même si bon, c'est ce qui m'a intéressé dans le solo, loin, c'est finalement de construire une sorte d'autoportrait qui ne se construit qu'au travers de fragments d'histoire collectés de personnes auxquelles je me suis identifié.
Alors dans des témoins ordinaires, le travail formel du passage de la parole au spectacle, au corps, comment est-ce que vous l'avez envisagé? Comment est-ce que peu à peu il s'est imposé à vous?
En fait, à chaque devant les témoignages des personnes qu'on a rencontrées, souvent j'étais assez démuni et je suis parti de ce constat d'échec, c'est-à-dire que face à l'immédiateté, à la spontanéité de ces mots qui sont des témoignages dont vous en entendrez certains, qui sont d'une certaine puissance, à chaque fois qu'on a essayé d'être dans un rapport immédiat à ces mots, j'avais l'impression que tout était illustratif, artificiel, et plutôt que de se confronter, c'est-à-dire plutôt que d'écrire pour le plateau avec ces mots au même moment, c'est-à-dire de réunir la danse, les témoignages, il m'a semblé important de séparer ces choses-là, et comme je disais tout à l'heure, pour que le moment où on regarde les danseurs, ces mots continuent de nous habiter parce qu'on les a entendus, et finalement on les retravaille dans le silence, ou plutôt dans l'espace sonore qui accompagne les danseurs ensuite. Donc la pièce se construit de façon assez simple. Il y a des moments de parole et il y a des moments de danse, des moments de déplacement. C'était aussi ce qui m'importait aussi au niveau du travail de corps, c'était de faire une sorte de parallèle entre beaucoup de choses que j'avais pu entendre dans les témoignages. Beaucoup des personnes qui ont connu ces actes de torture nous disaient que ces choses avaient été possibles parce qu'ils s'étaient retrouvés dans des environnements, dans des pays où une bonne partie de la population avait décidé de fermer les yeux, de baisser le regard face à une certaine réalité, face à ce qui se passait, et refuser de faire face à ce qui se trouvait devant eux. Et c'est peut-être un peu ce que j'ai essayé de travailler avec les interprètes que j'ai rencontrés, qui sont pas... Certains sont des danseurs, mais en tout cas, c'est des gens qui ont des parcours divers. En tout cas, c'est des gens qui ont des corps un peu particuliers. Des gens qui sont capables de se métamorphoser, qui sont capables de faire des choses qu'un corps ordinaire ne peut pas faire. Certains sont proches du contorsionnisme, d'autres... je ne veux pas trop en parler, en fait, parce que si on révèle ces choses-là, on les attend. Et je crois que c'est cet effet de révélation pendant la pièce qu'il est important de vivre. Mais... en tout cas, c'est ce moment où ces interprètes, sur le plateau, commencent à produire des choses où, en tant que spectateur, on est forcé de se demander si je peux accepter cette situation, si ce corps est, entre guillemets, normal. Parce qu'on est tout le temps sur la frontière entre un corps quotidien, un corps comme on peut être là, et tout d'un coup, ces corps qui se transforment et qui sont parfois même à la limite du regardable. Et c'est ce parallèle-là, en fait, qu'on a essayé de construire entre le travail de corps, le travail chorégraphique et ce travail sur les interviews. Ce moment de prise de conscience et où le regard dit « stop, non, cette chose n'est pas possible ».
Donc un travail sur la frontière, la limite, là où le regard devient, en tout cas, où il faut assumer quelque chose qui est difficile, quoi, difficilement regardable.
Oui, quoi, pas difficilement. Non, juste parce que c'est pas des images qui obligatoirement sont répugnantes. Hein, on n'est pas allé dans ce registre-là, mais vraiment où on est juste interpellé. On doit s'interroger sur comment cette chose-là est possible. Ça se fait. Voilà quoi. Je veux dire, on n'a pas envie de fermer les yeux et de partir en courant. Quoi, j'espère pas. C'est plus. C'est vraiment très délicat parce que si j'en parle, je pense qu'on rate l'expérience du spectacle.
Donc n'en parlez pas.
Voilà. Je ne vais pas donner plus de détails là-dessus, mais oui, c'est sûr que c'est un travail sur la limite des corps et sur la frontière avec laquelle on joue et, quand les spectateurs sont là, sur ce que l'on finalement révèle. Parce que voilà, il y a un environnement lumière, il y a un environnement vidéo qui vont permettre de voir des choses ou de les faire disparaître.
Et quel est justement cet environnement sonore et vidéo? Est-ce qu'il est là aussi de type assez entre guillemets réaliste, documentaire, ou est-ce que vous êtes parti sur quelque chose qui est justement échappe complètement à l'illustration, beaucoup plus abstrait?
Non, il y a des moments de témoignage où les... Quoi, d'abord, comme je disais tout à l'heure, on s'est surtout focalisé sur les mots et les visages. Il y a un travail de révélation de visage au fur et à mesure de la pièce, mais peut-être pour qu'on puisse toujours, avec le spectateur, permettre au spectateur de se projeter, d'investir le sujet avec nous. De creuser dans les mots, il nous semblait plus important de se focaliser là-dessus, sur ce qui nous était dit avant de savoir qui nous le disait, avant de révéler les identités des personnes. Et donc au début, en fait, ou plutôt progressivement dans la pièce, il y a une révélation des visages des personnes et on s'est focalisé là-dessus. C'est qu'un travail de portrait pour que, comme je disais tout à l'heure, on n'entre pas dans un récit historique, on ne parte pas, on ne contextualise pas trop les événements parce que sinon on peut se perdre dès qu'on aborde ce sujet-là dans le contexte de chacun des pays dans lesquels ces choses-là sont produites. Donc non, c'est vraiment des portraits d'individus et ces visages se révèlent progressivement et toute la pièce procède de cette chose-là, de présence qui vont finir par se révéler.
Peut-être qu'il y a des questions pour Rachid ou Ramdan. Tout à fait. Oui.
Bonjour, là-bas. Je voulais savoir si... grâce à la danse, de nouveaux langages pouvaient être perçus et si sur cette quête d'identité, une quête de territoire aussi est possible.
Juste par rapport à la danse, aussi parce que j'ai vécu quelque chose qui m'a assez agacé. Là, dernièrement, je suis allé voir une pièce assez magnifique de Maggie Marin et en sortant, j'entendais des personnes qui, une fois de plus, nous rabattaient à ce débat qui me semble vraiment stérile de danse, théâtre, scénographie, ou qui avaient beaucoup de critiques à formuler là-dessus, mais pas tant sur le sujet de l'œuvre qui nous était présentée, mais plus sur la discipline à laquelle on pouvait bien rattacher ce qu'on venait de voir. Et je sais, bien sûr que je viens de la danse, j'ai été formé à ça, j'ai un parcours de danseur, d'interprète d'abord, de chorégraphe ensuite, mais très vite les personnes avec lesquelles j'ai collaboré dans le passé, des gens comme Hervé Robb, Meg Stuart, plusieurs chorégraphes, étaient des personnes qui travaillaient avec plusieurs médium, aussi bien la vidéo que des environnements sonores. Et c'est plus des gens qui travaillent la scène et des formes de présence, qui travaillent le plateau, plutôt que des gens qui travaillent la danse, le théâtre, le chant, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire un peu cette chose-là, parce que je crois que ce qui m'importe, c'est de faire le portrait d'individus, des autoportraits comme Loin ou des témoins ordinaires, mais avec l'ensemble des choses qui me semblent nécessaires pour parler de ces gens. Et si ça nécessite de la vidéo, ben, y a de la vidéo. S'il y a du son, il y a du son. Mais en fait, c'est pour ça aussi que souvent je préfère... Bon là, ça dépend des contextes de prise de parole, mais je préfère dire que je travaille avec des gens qui bougent plutôt qu'avec des gens qui dansent. Parce que souvent, On peut avoir un horizon d'attente par rapport à ça. On se met à voir ce qui se passe dans beaucoup de spectacles auxquels j'assiste aujourd'hui, ou des débats qui naissent suite à ça, qui pour moi confisquent en fait vraiment la perception de l'œuvre, parce qu'on se met à parler de choses qui me semblent vraiment très anecdotiques mais en tout cas ça me semble assez périphérique par rapport au cœur du projet. Et vraiment, je l'ai encore vécu là récemment sur cette édition. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, je ne me pose jamais la question de est-ce que c'est la danse qui m'apporte ça ? Est-ce que c'est le fait que, adolescent, j'aimais jouer au football ? Est-ce que c'est le fait que j'aime que je suis plutôt quelqu'un de contemplatif et qui aime travailler sur un étirement du temps ? C'est l'alchimie de tout ça. C'est pas la danse, la colonne vertébrale des projets qui organise ces choses-là. C'est beaucoup plus la rencontre que j'ai. Et c'est ce qui se produit avec les artistes avec lesquels je travaille ou avec les à partir des témoignages de ce que l'on collecte en fait.
Une autre question. On va pouvoir voir au même moment, puisque c'est simultané, des témoins ordinaires, loin, et même aussi une série de portraits vidéo à la Chapelle du Miracle qui vous ont servi, donc je dirais presque de matériaux pour des témoins ordinaires. Est-ce que c'est important pour vous qu'à Avignon, on puisse comme ça voir plusieurs états de votre travail ?
Oui, particulièrement quand ils se répondent comme là ce qui s'est produit, c'est-à-dire que au fur et à mesure de l'avancée des rencontres qu'on réalisait, c'était des entretiens qui j'approchais les personnes pendant plusieurs jours, mais le moment de l'entretien en général il se passait en 2 heures. Mais bon, on a rencontré pas mal de personnes. À un moment donné, on s'est retrouvé avec une vingtaine d'heures de témoignages, alors que dans la pièce, on n'en utilise que peut-être 3/4 d'heure. Et il y avait beaucoup de nuances, en fait, que je trouvais importantes de partager et que je n'arrivais pas à intégrer dans la pièce. Et c'est à ce moment-là que j'ai... Au début, on s'est même posé la question d'une forme qui pouvait durer... peut-être 5-6 heures, mais plus dans la possibilité à des spectateurs de rester comme de s'en aller, mais en tout cas de ne pas trop réduire ces témoignages. Mais là, je crois que c'était plus une faille de ma part, quoi, une incapacité à réagir, à savoir quoi faire de tout ce qui me dépassait. Parce que vraiment, hein, quand on a commencé... Autant, bon, voilà, ce sujet-là, c'est quelque chose auquel j'avais déjà été confronté. C'est des choses qui m'occupent, qui m'interpellent, mais j'ai quand même vraiment été dépassé par tout ce que j'ai entendu. Et devant ce dépassement, je savais pas quoi faire de cette chose qui me semblait nécessaire d'être partagée et en même temps, peut-être, je sais pas, j'ai envie de dire entre guillemets, moins dans le champ de l'art. C'est-à-dire, je crois qu'on est vraiment dans le champ de l'art quand on est quand on est devant la pièce, et je crois que l'installation, bien sûr qu'il y a une dimension artistique dans le fait que c'est un triptyque, dans le fait que c'est 3 fois le même visage qui est filmé sous des angles différents, que c'est une personne qui est en train de témoigner, qui fait toujours face au moins à une des caméras, donc les autres angles de la caméra fait qu'on filme cette personne de profil et projeté en triptyque, comme ça on a l'impression que cette personne s'adresse à vous et qu'en même temps elle s'adresse à elle-même, et il y a une sorte de sentiment de monologue intérieur qui peut s'installer, de personne qui alors qu'elle est en train de qui s'observe tout en même temps qu'elle est en train de nous parler. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est dans quelque chose qui a plus une fonction pédagogique sur le triptyque. Mais ça me semblait important de donner un écho à cette parole, surtout suite à ce qui s'est passé ces dernières années, les années Bush, certaines politiques d'État qui ont tenté de nous amener vers une forme de tolérance vis-à-vis de la torture, en tentant de la justifier, en tentant d'expliquer que parfois ça pouvait être un moindre mal vis-à-vis de, d'un mal qui pouvait être bien pire. Et je crois que cette installation, ça me permettait de me positionner par rapport à ça. Donc oui, c'est vraiment une extension face à... suite à la pièce des témoins ordinaires, où là je crois qu'on on a touché plus de choses sur comment partager ce type d'informations, comment les rendre sensibles et faire se diffuser dans le regard d'un spectateur, alors que je crois qu'on est dans une adresse beaucoup plus classique au niveau de l'installation, mais qui a beaucoup de sens pour moi.
Merci Rachid ou Ramdan. Donc je rappelle les trois rendez-vous avec votre travail. Au Tinel de la Chartreuse, des témoins ordinaires du 19 au 28 à 18h et du 20 au 22 à 14h30. Loin, à la salle Benoît XII, du 26 au 29 juillet à 14h30. Et donc, à la Chapelle du Miracle, cette installation de portraits vidéo qui ont servi aussi pour des témoins ordinaires. Merci beaucoup. Laza qui vient présenter à Avignon un spectacle dont on a beaucoup parlé depuis sa création, Le Cri, donc à la Chapelle des Pénitents Blancs du 19 au 21 juillet à 15h. Donc un spectacle que vous chorégraphiez et dansez avec votre sœur Dalila. Peut-être que vous pouvez commencer par un petit peu présenter votre démarche artistique, puisqu'elle, le cri a été un peu la révélation de votre travail qu'on suit depuis presque 15 ans maintenant. Quel est un petit peu le projet qui habite tout votre travail ?
Bonjour. Ce que je pourrais dire de ce qui semble animer comme ça toutes mes pièces depuis maintenant effectivement presque une petite vingtaine d'années, c'est la sensation de persister au même endroit. C'est vraiment de me remettre à chaque début de pièce en contact, en relation avec la même nécessité de dire une forme d'essentiel. Et donc... rester en lien avec cet endroit-là qui fait que toutes mes pièces me donnent la sensation de finalement parler de la même chose sous des angles différents, mais toujours autour des quelques points qui me semblent moi importants dans l'art, notamment une nécessité de vide qui provient du fait que j'ai quand même la sensation à chaque fois avant qu'un espace soit habité par des danseurs ou des comédiens, ça me semble être toujours un espace quasi parfait, cet espace vide. Et la question pour moi, c'est comment réussir à faire une pièce sans déformer, sans réduire cet espace qui me semble plein, et en même temps y installer malgré tout une parole. Donc vraiment, je dis toujours la même chose, ou j'ai la sensation de dire toujours la même chose sans me répéter. Donc à chaque fois, en changeant un petit peu mon angle de vue, ma posture, légèrement mon appréhension, mais avec le même désir d'aller au plus près de la même chose.
Ce qui est toujours frappant, enfin en tout cas dans le cri, c'est cette impression effectivement d'épure, de simplicité du geste que vous traquez, que vous cherchez toujours.
En fait, je dirais que le cri, c'est venu d'une... Je suis quand même obligée d'expliquer un petit peu l'histoire du cri. Ça a commencé il y a 3 ans où j'étais dans une salle de spectacle où il y avait un spectacle de danse traditionnelle qui se produisait. Et en fait, le mouvement, il n'y avait quasiment pas de mouvement, c'était un demi-cercle d'hommes et de femmes qui étaient juste ensemble et qui communiaient par ce léger balancement dans leur corps. Et ce spectacle, avec des chants comme ça, une sorte de psalmodie très monocorde pendant 2 heures. Et ce qui m'a étonnée, c'est de voir à quel point le public était captivé par, euh, ce presque rien, et il a tenu 2 heures, et il, avec la sensation très forte de faire partie de ce qui se passait sur le plateau. Et bon, c'est des questions que j'avais évidemment dans toutes les autres pièces, ce lien au spectateur, de quelle manière le spectateur se positionne face à un spectacle. Mais là, encore plus fortement, c'est-à-dire que vraiment, il y a une chose dans la danse traditionnelle qui me semble fondamentale dans le rapport au public, c'est que elle le positionne dans le même espace que la représentation. Il fait partie de ce qui se produit sur le plateau. Et j'ai d'une certaine manière envie de retrouver ce lien, même si je l'ai toujours creusé. Retrouver cette sensation, non pas d'exposer une chose sous le regard du spectateur, mais vraiment d'être avec lui pendant que la chose se produit. Et ça passe par un certain nombre de choses, notamment une des choses que j'avais observées dans la danse traditionnelle, c'est la nécessité d'un état plein. C'est pour ça que je dis que cette pièce aurait dû être la première, parce qu'on devrait commencer par travailler à cet endroit-là, sur qu'est-ce qui nous met en lien à l'espace, à l'autre, et se tenir à cet endroit-là. Voilà. Donc je sais bien que c'est une amorce d'idées, mais ça me suffit pour faire une pièce.
Mais quand vous parlez de danse traditionnelle, il ne faut pas entendre un ballet.
Non,
c'est plutôt une danse religieuse.
Plus proche du rituel, effectivement, pour certaines. Beaucoup de danses que j'avais observées en Afrique du Nord, et notamment en Algérie, dans le sud de l'Algérie, en Égypte. Et elles ont toutes ce point commun de mettre les interprètes dans cet état de communion et en même temps de désamorcer une chose très importante, c'est cette attente que le spectateur a, notamment vis-à-vis des spectacles de danse contemporaine où on lui dit qu'il y a des choses à comprendre. Donc il arrive avec cet angle de vue très fort comme ça sur le plateau où je dois comprendre quelque chose. Et en danse traditionnelle, on voit très bien dès les premières secondes qu'il n'y a rien et il ne se passera rien d'autre. Alors soit on en fait partie, soit on sort. Et je pense que c'est important aussi d'intégrer ça dans le processus de création, d'intégrer cette nécessité de dire à l'autre avant que la pièce commence, je suis désolée, mais il ne se passera peut-être pas grand-chose de plus. Ça ne sert à rien d'attendre. Et là, peut-être, on met en place... En désamorçant cette attente, on réussit peut-être à mettre en place une disponibilité qui n'est pas toujours là chez le spectateur.
C'est aussi une manière pour vous de croiser une démarche artistique avec une démarche qu'on peut dire de type spirituel, enfin de religieuse presque.
Spirituelle, elle me va bien, oui. C'est tout simplement un cheminement humain. Évidemment que l'art est important, mais... que la nécessité de faire des pièces, c'est aussi c'est une manière de donner une forme à tout ça. Mais je tiens vraiment à dire que, en même temps que les pièces se font, c'est un être humain qui grandit, qui se construit, qui se découvre et qui se questionne sur ces questions-là. Évidemment, j'ai toujours pensé que ce qu'il y avait autour du corps était presque plus important que le corps. Voilà, cette dimension d'invisible, d'ineffable, etc. Donc tout ça a cheminé en même temps que mes pièces. Et c'est vrai que dès le départ, je n'ai pas souhaité dissocier ces deux choses-là, voire même voir de plus en plus quel était l'endroit où elles étaient susceptibles de se rencontrer, dialoguer et peut-être même ne faire qu'un.
Mais en faisant ça, vous avez aussi une dimension de, je dirais, de renvoyer un cliché traditionnel à la casse, d'une certaine manière, celui qu'une femme musulmane ne peut pas danser. C'est quelque chose qui est, je pense, important dans vos spectacles.
Non, c'est pas de ça dont je traite dans mes spectacles. Mais j'ai dû, effectivement... vous savez, il y a des questions, quand on les pose comme ça, évidemment, elles semblent, on ne peut pas les résoudre, hein, elles semblent impossibles. Mais on sait tous que dans nos vies, il y a des choses, des points de jonction, des points de communication entre des choses qui semblent évidemment aussi paradoxales, opposées, qui intuitivement peuvent se résoudre, voilà, au quotidien. Donc c'est vraiment, et c'est pour ça que je n'en fais pas une règle, c'est vraiment un cheminement d'un individu de manière très, très intime, et en même temps j'ai placé ça dans des formes qui sont extérieures à ça, c'est-à-dire que j'ai quand même j'ai pas non plus voulu enfermer ma recherche à l'intérieur de ce cadre-là. J'ai vraiment voulu la laisser libre, tout en sachant que c'était ces questions-là que je me posais et qui étaient importantes pour moi à résoudre. Parce que je pense que dans... Enfin, ça, c'est, ça n'engage que moi, mais je pense que la dimension spirituelle est une dimension vitale. On l'a au quotidien dans nos vies, on la recherche plus ou moins. Et je pense que c'est... Enfin, pour ma part, j'ai besoin d'inscrire cette dimension dans les corps, dans l'espace. C'est peut-être ce qui me donne la sensation de me mettre en lien à l'autre.
Et ce travail, justement, d'incarner une forme de spiritualité, enfin de la rendre visible dans le mouvement, dans les corps, ça passe forcément pour vous par cette forme d'épure, de simplicité, une forme de rigueur aussi, quand même très impressionnante dans vos spectacles.
Je crois que c'est la rigueur qui amène à l'épure. Je ne me dis pas, je vais faire une chose épurée. Je me rends compte, évidemment, quand le regard est suffisamment travaillé, aiguisé, on se rend compte que on peut faire avec un rien, on peut faire une pièce. Je dis toujours que quand on rajoute des choses, c'est parce qu'il y a un manque. C'est parce que ça ne suffit pas quelque part. Bon, après, il y a des formes qui se défendent très bien dans ce domaine-là, mais pour ma part, plus j'avance, j'ai la sensation d'utiliser de moins en moins de matière pour faire des pièces. Peut-être parce qu'aussi, il y a un travail qui a été fait sur, je disais tout à l'heure, sur l'humain, sur l'interprète, qui, pour moi, porte le décor, porte la trame, porte la dramaturgie, porte tout. Donc, c'est vrai que dans l'espace, j'ai pas vraiment besoin d'inscrire. Et j'aimerais pouvoir continuer comme ça. Donc, il faudrait que voilà, les interprètes que je rencontre... c'est vrai que c'est très lourd, le travail que je demande à un interprète, du fait qu'il est en permanence plongé dans le vide. Il n'y a absolument rien sur le plateau, il n'y a aucune forme de protection chez l'interprète. Pour pouvoir arriver à ce lien, on est obligé de passer par une très grande fragilité dans notre manière d'être sur le plateau. Et c'est vrai que c'est là que réside l'essentiel de mon travail. Donc je n'ai pas besoin de grand-chose autour.
Ce qui est impressionnant dans le cri, je trouve, c'est le sentiment qui peut être très presque violent du mouvement aussi. C'est quelque chose que vous travaillez d'une façon très particulière.
Je pense qu'au-delà du mouvement, ce qui vous fait employer ce mot violent, et je suis un peu d'accord avec vous, c'est la façon dont ça puise dans l'être et ce que ça va chercher et la manière dont ça cherche à le libérer. Et cette exhortation... effectivement, sur un seul mouvement, à un seul endroit dans l'espace, c'est ce qui peut faire dire que c'est effectivement extrêmement radical ou violent, parce que il y a l'idée qu'on se laisse pas le choix et qu'on reste à cet endroit-là et que la chose doit se produire avec un seul mouvement et à cet endroit. Mais je pense que le dialogue qu'on a avec soi, c'est aussi là que souvent s'instaurent les distances entre les individus. C'est que moi, c'est pas le cadre que je discute. Je le pose une fois pour toutes au début, et c'est vraiment par le dialogue avec moi-même que je vais creuser cet endroit en me disant qu'il y a forcément une possibilité, il y a forcément un endroit où je peux être libre à l'intérieur de ce cadre aussi restreint, et je négocie absolument pas la forme. Ensuite, donc c'est aussi ça qui renvoie cette, qui suggère cette violence, c'est le rapport à soi où on se laisse pas le choix. Et ça, c'est présent dans toutes mes pièces. Mais je crois que c'est à ce prix-là qu'on arrive à mettre sur le plateau une chose humainement de valeur.
Le fait de danser avec votre sœur, j'imagine, est très important dans ce spectacle. Pourquoi ce choix ?
Non, comme je vous ai répondu dans l'entretien, ça n'est pas plus facile. C'est pas plus compliqué. C'est compliqué à certains endroits, évidemment, puisqu'il y a le lien de sœur. Elle est là, d'ailleurs, au premier rang. Elle écoute ce que je dis. Le lien de sœur qui peut faciliter... Évidemment, il y a une connaissance très forte, Mais en même temps, moi, j'ai eu la sensation de la redécouvrir, de faire sa connaissance à travers le travail. Parce que ce qu'on connaît des gens, c'est un petit peu ce qu'ils veulent bien nous dire d'eux dans la vie. Et chacun expose ce qu'il a envie d'exposer sous l'œil de l'autre. Et dans le travail, en fait, on est mis dans des situations d'urgence extrême, de tensions extrêmes qui font que les vraies natures peut-être se révèlent. Donc on a vraiment appris à travers 20 ans de discussions, de pièces qu'on a traversées, à se connaître aussi en tant que personne. C'est pas parce qu'on fait partie de la même famille qu'on se connaît plus, j'ai envie de dire. Et donc il y a une grande vigilance à garder, évidemment, dans le fait de négocier en permanence cette proximité, cette distance, voilà, donc c'est moi, la vigilance est toujours aussi présente, que ce soit dans le travail avec ma sœur ou avec d'autres interprètes, puisqu'elle est en premier lieu vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que voilà, quand je commence une pièce, je me connais, je sais ce que j'ai donné dans la pièce d'avant, je sais là où je suis allée, je sais ce que je suis capable de faire, et je dois aller ailleurs. Comme si quelqu'un d'autre que moi me le demandait, je dois aller ailleurs, je dois me déplacer, je dois me faire face, aller contre moi-même d'une certaine manière pour pouvoir me déplacer de pièce en pièce.
Mais là, est-ce que vous pourriez imaginer le Chris sans le danser avec votre sœur Dalila ?
Toutes mes pièces sont construites sur la base de un, voire même personne, puisque je vous ai dit c'est l'espace vide qui m'intéresse. Donc toutes mes pièces tiennent avec un seul interprète. Ensuite, on peut le vivre à deux, à trois. C'est une pièce qu'on pourrait vivre à quatre, cinq, même plus. Comme effectivement, on pourrait la réduire, et c'est ce qui nous arrive en répétition, de l'interpréter une par une, la réduire à une seule. Ça, pour moi, c'est un test, ce qui me permet de vérifier que ça tient dans un seul corps, et ça peut tenir dans plusieurs corps. Après, évidemment, que cette connaissance qu'on a l'une de l'autre depuis 20 ans, et je dirais, il n'y a pas que le travail, hein, il y a tout ce qui se passe autour, les expériences de la vie, les discussions, qu'on ne peut plus trop partager avec les interprètes parce que désormais, ils font une création, ils s'en vont, etc. Et moi, c'est un rythme qui ne me convient pas du tout. Là, on ne pouvait pas se quitter, donc par la force des choses, on a continué à travailler ensemble. Et c'est tout ce qui a étoffé ce travail, tout ce qui a nourri ce travail, qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une connaissance et un ressenti de l'autre extrêmement profonde. Voilà. Et donc maintenant qu'on l'a dansé ensemble, c'est vrai que je vois personne d'autre danser avec moi. Mais ça... Enfin, moi, quand un danseur quitte une pièce, je ne fais pas de reprise de rôle. C'est tout le travail sur l'interprète, sur les chemins qu'on doit l'aider à emprunter, tout ce qu'il découvre sur lui-même. C'est presque plus important que la pièce. L'expérience humaine qui se dissimule derrière est presque plus forte. En un an, puisque ça, c'est quand même un cycle de vie, ça prend un an pour construire une pièce, en tout cas pour moi. Donc c'est tout ce qu'on découvre sur soi, comment on va vers la chose, comment on s'en éloigne, comment on la retrouve, comment on la perd à nouveau, qu'est-ce qui nous permet finalement de la retrouver au bout d'un an, qui est intransmissible. On ne peut pas comme ça le transmettre d'un danseur ou le substituer un danseur à un autre.
Des questions pour Nasser Abelhaza. Attendez, le micro arrive. Voilà.
Est-ce que dans cette forme méditative, minimaliste, vous avez laissé des points de suspension, en quelque sorte, pour qu'on puisse faire converger des idées et casser des frontières?
J'ai pas entendu toute la question.
Dans cette recherche minimaliste et méditative, est-ce que vous avez laissé des points de suspension pour que les idées puissent converger et, dans une certaine mesure, casser les frontières?
Dans quelle mesure, pardon, la dernière?
Dans une certaine mesure, casser les frontières.
Casser les frontières?
Et être dans l'intime.
J'ai jamais employé le mot casser dans mon travail, mais... Vous parlez de la relation au public, évidemment. Oui. Mon souci, c'est de créer une forme qui prenne le moins de place possible, qui laisse le plus de place possible au spectateur pour y projeter, pour y entrer, pour pas seulement les idées, vous montrez la tête, mais pas seulement les idées, vraiment être dans une relation pleine, ça passe pas que par la tête. Et donc c'est comment, c'est comme si mes pièces étaient des prétextes en fait, ou une sorte de forme, une illusion pour amener ce lien. Parce que je crois qu'au fond, même si on réfléchit sur un tas de choses quand on fait une pièce, ce qui me préoccupe dans le fond, c'est qu'est-ce qui me lie à l'autre. Et même si on ne se regarde pas sur scène, on ne se touche pas, même on a un peu ce rapport aussi de distance avec le spectateur, c'est ce lien-là que je tente de révéler dans chacune de mes pièces. Et en faisant ça, par conséquent, je suis amenée à faire ce que vous dites, casser les frontières, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin, c'est déjà d'un corps à l'autre, les frontières. C'est déjà les résistances de l'autre à entendre ou à ressentir ou à voir. Si c'est ça que vous appelez des frontières, oui. Après, d'abord à cet endroit-là. Ensuite, quand on est vraiment ensemble, on peut commencer à parler d'autre chose.
Une autre question ? Je rappelle le spectacle Cri à la Chapelle des Pénitents Blancs du 19 au 21 à 15h pour retrouver Nacera et Dalila Belaza. Merci beaucoup.
Merci.
François Chéniaud, vous êtes chorégraphe et danseur et vous donnez, dans le cadre de la 25e heure du Festival d'Avignon, Sylphide. Avec Cecilia Bengolea. Vous connaissez le principe de la 25e heure, à minuit, pendant une heure à l'école d'art. Et cela se déroule les 18 et 19 juillet. Alors, François Chéniaud, avec Sylphide, vous abordez une figure... à la fois romantique et mythologique, qui est donc cette Sylphide. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire pourquoi vous avez construit un spectacle autour de cette figure ?
En fait, le point de départ n'a pas été les Sylphides, mais cet idéal de corps immatériel et cet horizon un peu obsédant pour le corps contemporain, d'un corps qui serait évanescent, absenté, entre la vie et la mort. Est apparu dans le travail et nous a semblé une espèce de question majeure qui se pose par rapport à nos pratiques de danseurs, aux espèces d'idéaux dominants dans la danse contemporaine qui sont loin du corps immatériel et plutôt dans la pesanteur, dans la concrétude, presque dans la banalité d'un corps quotidien. Et du coup, ça nous a semblé qu'exhumer cette figure de la Sylphide qui a passionné d'abord des écrivains au XVIIIe siècle et puis ensuite évidemment le ballet romantique du XIXe siècle, qu'exhumer cette figure, c'était plus que juste exhumer une référence historique, mais ça activait toutes sortes de problématiques liées à la danse, au fait de danser, de mettre en jeu des corps, et aussi au rapport qu'entretient notre société, notre pensée, notre conscience, par rapport à des espèces de gros thèmes, de grosses pensées qui peuvent sembler effrayantes, mais comme si la Sylphide, avec sa texture immatérielle, elle permettait de traverser ces questions de la vie et la mort, de qu'est-ce qu'il advient d'un corps après la mort, qu'est-ce qu'on fait d'un corps mort, comment on se relationne avec eux. Et du coup, ça a été assez enthousiasmant de pouvoir se dialoguer avec cette figure mythologique.
Mais est-ce qu'il y a un travail, je dirais, de type documentaire, historique, presque d'histoire de la danse, puisque c'est vrai que la Sylphide comme figure romantique de la danse, de l'invention de la danse moderne au XIXe siècle a été quelque chose de très important.
Ouais, en plus, en 2009, c'est le centenaire de la création de la Sylphide par Fokine. C'était en 1909. Mais pour nous, c'était plus de se brancher à ces problématiques que de... On reproduit aucune chorégraphie des Sylphides. C'est plutôt à partir d'un dispositif extrêmement contraignant, extrêmement précis et très qui détermine la pièce que les problématiques liées aux Sylphides apparaissent. Mais c'est pas du tout une citation.
Il y a pas un travail comme l'année dernière Olivier Dubois avait fait sur la figure de Nijinsky.
Non, je pense qu'il y a beaucoup de. C'est pas du tout une reconstruction, mais je pense que faire dialoguer des figures mythiques de l'histoire de la danse avec des, comment dire, des procédés contemporains sans essayer de reconstruire. C'est aussi, en un sens, pour notre projet, c'était plus opérationnel et c'est très, très dynamisant, peut-être d'une autre manière en tout cas que de...
Alors cette exploration de la figure de l'évanescence, comme ça, elle passe par quelle forme ?
En fait, peut-être que c'est mieux de ne pas expliquer le dispositif, mais on a mis en place un dispositif de suspension de nos fonctions vitales et de notre capacité à se mouvoir et à être vivant, une restriction maximale. Et du coup, un peu l'enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe d'un corps quand apparemment il n'y a plus aucun espoir pour qu'il bouge, et comment d'un corps sans espoir peut surgir la danse même. Et l'autre enjeu, c'est comment après une expérience dont le coefficient de réalité est vraiment extrême, c'est-à-dire comment d'une expérience dont le degré de réalité est tel qu'on ne peut pas s'en échapper, une expérience de suspension des fonctions vitales, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on recouvre sa capacité à bouger, voir, percevoir, sentir ? Comment on voit autrement le monde ? Quelle candeur ou quelle force ou quels héritages ou qu'est-ce qui subsiste de ça ? Donc c'est le moyen qu'on a utilisé, c'est un dispositif qui est plus réel que poétique. On a pour de vrai, littéralement suspendu nos fonctions vitales.
Et j'imagine que c'est aussi une sorte d'apprentissage du regard pour le spectateur, comment voir quelque chose quand il n'y a plus rien, quand il y a la mort apparente en tout cas.
Voilà, cette pièce c'est aussi comme un... Quand il n'y a plus aucun espoir, du coup le regard, la perception et le désir même qu'on a pour un corps, il est obligé de changer d'échelle. Il ne peut plus demeurer à son échelle quotidienne. Et du coup, toute la pièce, elle est une espèce de plongée en un sens très profond sur des mouvements que normalement on ne voit pas, ou un paysage vivant qu'on ne soupçonne pas dans des situations plus confortables.
Cela rejoint certains travaux d'installation d'art contemporain. L'année dernière, il y avait par exemple à la Chartreuse, on pouvait voir une installation où des corps comme ça semblaient dormir pendant des heures. Et on était confronté à cette sorte de à la fois de matière et d'immatérialité presque des corps comme ça qui étaient là devant nous et qui avaient leur poids, mais qui en même temps ne bougeaient pas.
C'est sûr qu'il y a un côté très plastique ou très visuel quand on pense que le corps, sa fonction motrice s'est absentée. Mais en même temps, on adopte vraiment un point de vue chorégraphique ou de danse par rapport à cette expérience. Il s'agit pas de... Bien sûr, ça compose des images et plus ou moins, qui impressionnent plus ou moins l'œil, plus ou moins les yeux, l'œil. Mais dans le processus, il s'agit vraiment de voir comment nos corps peuvent se diminuer, s'emparer de cette diminution, et quelle chorégraphie, quel moyen aussi de composer il nous reste quand on est aveugle et quasiment immobilisé. Quel champ d'action, quelle puissance d'agir il nous reste. Et en ce sens-là, c'est vraiment un travail... qui creuse ou qui puise dans ce que peut le corps. Et du coup, on insiste beaucoup aussi pour en faire une expérience et une pièce de danse qui aussi transmet quelque chose de très empathique, de corps à corps, de la personne qui regarde, aux personnes sur le plateau, qui est plus qu'un rapport d'image.
C'est aussi un travail collectif. Enfin, vous êtes... plusieurs personnes sur le plateau, vous êtes et deux à l'avoir conçu. Comment est-ce que vous avez travaillé ?
Donc on a écrit la pièce avec Cecilia Bengolea, avec qui on collabore depuis quelques années. On a créé un duo, Pâquerette, et on prépare une nouvelle pièce. On est habitué d'un travail ensemble. Et ensuite, c'est une pièce sur laquelle on est quatre, donc avec Lenio Caclea et Chiara Galerani, qui ont, voilà, avec qui on a construit et mis en place le spectacle.
Il y a cette idée d'être plusieurs comme ça, d'être quatre, c'est aussi l'idée de la circulation de quelque chose qui passe entre les corps.
Oui, parce que le dispositif qu'on emploie, en un sens, on devient complètement étanche à l'altérité, aux autres, on est comme encapsulé. Mais d'avoir la possibilité de montrer, même si on n'est que trois, à être des sylphides, la possibilité d'avoir cette population presque, elle permet du coup de dessiner tout un jeu de relations et tout un. Qu'est-ce qui se passe aussi quand on vit une expérience, mais on sait que trois ou une quantité d'autres personnes partagent aussi cette expérience-là. Et du coup, des réseaux, de dialogues, de connexions ou de types de relations apparaissent en deçà ou au-delà de ce que dans des pièces ou des plateaux ou des mises en scène plus. Comment dire. D'autres mises en scène où on écrit ces relations-là. Là, c'est comme si elles doivent être à un niveau infra ou supra, mais on peut pas les maîtriser, les contrôler de la même manière. Et je pense que c'est le fait d'être plusieurs sur le plateau induit aussi la possible écriture d'empathie du spectateur au plateau, dans la mesure où cette empathie est très active sur le plateau même.
Des questions pour François Chéniaud? Non. Je rappelle le spectacle Sylphide, donc au pluriel. On a beaucoup de S dans les titres cette année, un peu à la manière de Wajdi Mouawad dans les spectacles du festival. À l'École d'Art pour la 25e heure ce soir et demain à minuit. Merci beaucoup. François Chéniaud, vous êtes chorégraphe et danseur et vous donnez, dans le cadre de la 25e heure du Festival d'Avignon, Sylphide avec Cecilia Bengolea. Vous connaissez le principe de la 25e heure à minuit, pendant une heure à l'École d'Art. Et cela se déroule les 18 et 19 juillet. Alors, François Chéniaud, avec Sylphide, vous abordez une figure à la fois romantique et mythologique, qui est donc cette Sylphide. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire pourquoi vous avez construit un spectacle autour de cette figure ?
En fait, le point de départ n'a pas été les Sylphides, mais cet idéal de corps immatériel et cet horizon un peu obsédant pour le corps contemporain. D'un corps qui serait évanescent, absenté, entre la vie et la mort, est apparu dans le travail et nous a semblé une espèce de question majeure qui se pose par rapport à nos pratiques de danseurs, aux espèces d'idéaux dominants dans la danse contemporaine qui sont loin du corps immatériel et plutôt dans la pesanteur, dans la concrétude, presque dans la banalité d'un corps quotidien. Et du coup, ça nous a semblé qu'exhumer cette figure de la sylphide qui a passionné d'abord des écrivains au XVIIIe siècle et puis ensuite évidemment le ballet romantique du XIXe siècle, qu'exhumer cette figure c'était plus que juste exhumer une référence historique, mais ça activait toutes sortes de problématiques liées à la danse, au fait de danser, de mettre en jeu des corps et aussi au rapport qu'entretient notre société, notre pensée, notre conscience par rapport à des espèces de gros thèmes, de grosses pensées qui peuvent sembler effrayantes, mais comme si la sylphide, avec sa texture immatérielle, elle permettait de traverser ces questions de la vie et la mort, de qu'est-ce qu'il advient d'un corps après la mort, qu'est-ce qu'on fait d'un corps mort, comment on se relationne avec eux. Et du coup, ça a été assez enthousiasmant de pouvoir se dialoguer avec cette figure mythologique.
Mais est-ce qu'il y a un travail, je dirais, de type documentaire, historique, presque d'histoire de la danse, puisque c'est vrai que la sylphide comme figure romantique de la danse, de l'invention de la danse moderne au 19e siècle a été quelque chose de très important.
Ouais, en plus, en 2009, c'est le centenaire de la création de la sylphide par Fokine. C'était en 1909. Mais pour nous, c'était plus de se brancher à ces problématiques que de... On reproduit aucune chorégraphie des sylphides. C'est plutôt à partir d'un dispositif extrêmement contraignant, extrêmement précis et très, qui détermine la pièce que les problématiques liées aux sylphides apparaissent. Mais c'est pas du tout une citation.
Il n'y a pas un travail comme l'année dernière, Olivier Dubois avait fait sur la figure de Nijinsky.
Non, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est pas du tout une reconstruction, mais je pense que faire... dialoguer des figures mythiques de l'histoire de la danse avec des procédés contemporains sans essayer de reconstruire. C'est aussi, en un sens, pour notre projet, c'était plus opérationnel et c'est très, très dynamisant, peut-être d'une autre manière en tout cas que de...
Alors cette exploration de la figure de l'évanescence, comme ça, elle passe par quelle forme ?
En fait, peut-être que c'est mieux de ne pas expliquer le dispositif, mais on a mis en place un dispositif de suspension de nos fonctions vitales et de notre capacité à se mouvoir et à être vivant, une restriction maximale. Et du coup, un peu l'enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe d'un corps quand apparemment il n'y a plus aucun espoir pour qu'il bouge. Et comment d'un corps sans espoir peut surgir la danse même. Et l'autre enjeu, c'est comment après une expérience dont le coefficient de réalité est vraiment extrême, c'est-à-dire comment d'une expérience dont le degré de réalité est tel qu'on ne peut pas s'en échapper, une expérience de suspension des fonctions vitales, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on recouvre sa capacité à bouger, voir, percevoir, sentir ? Comment on voit autrement le monde, quelle candeur ou quelle force ou quels héritages ou qu'est-ce qui subsiste de ça. Donc c'est le moyen qu'on a utilisé, c'est un dispositif qui est plus réel que poétique. On a pour de vrai, littéralement suspendu nos fonctions vitales.
Et j'imagine que c'est aussi une sorte d'apprentissage du regard pour le spectateur, comment voir quelque chose quand il n'y a plus rien, quand il y a la mort apparente en tout cas.
Voilà, cette pièce c'est aussi comme un... Quand il n'y a plus aucun espoir, du coup le regard, la perception et le désir même qu'on a pour un corps, il est obligé de changer d'échelle. Il ne peut plus demeurer à son échelle quotidienne. Et du coup, toute la pièce, elle est une espèce de plongée en un sens très profond sur des mouvements que normalement on ne voit pas, ou un paysage vivant qu'on ne soupçonne pas dans des situations plus confortables.
Cela rejoint certains travaux d'installation d'art contemporain. L'année dernière, il y avait par exemple à la Chartreuse, on pouvait voir une installation où des corps comme ça semblaient dormir pendant des heures. Et on était confronté à cette sorte de à la fois de matière et d'immatérialité presque des corps comme ça qui étaient là devant nous et qui avaient leur poids, mais qui en même temps ne bougeaient pas.
C'est sûr qu'il y a un côté très plastique ou très visuel quand on pense que le corps, sa fonction motrice s'est absentée. Mais en même temps, on adopte vraiment un point de vue chorégraphique ou de danse par rapport à cette expérience. Il s'agit pas de... Bien sûr, ça compose des images et plus ou moins, qui impressionnent plus ou moins l'œil, plus ou moins les yeux, l'œil. Mais dans le processus, il s'agit vraiment de voir comment nos corps peuvent se diminuer, s'emparer de cette diminution, et quelle chorégraphie, quel moyen aussi de composer il nous reste quand on est aveugle et quasiment immobilisé. quel champ d'action, quelle puissance d'agir il nous reste. Et en ce sens-là, c'est vraiment un travail qui creuse ou qui puise dans, dans ce que peut le corps. Et du coup, on insiste beaucoup aussi pour en faire une expérience, une pièce de danse qui aussi transmet quelque chose de très empathique, de corps à corps, de la personne qui regarde, aux personnes sur le plateau, qui est plus qu'un rapport d'image.
C'est aussi un travail collectif. Enfin, vous êtes... plusieurs personnes sur le plateau, vous êtes et deux à l'avoir conçu. Comment est-ce que vous avez travaillé ?
Donc on a écrit la pièce avec Cecilia Bengolea, avec qui on collabore depuis quelques années. On a créé un duo, Pâquerette, et on prépare une nouvelle pièce. On est, comment dire, habitué d'un travail ensemble. Et ensuite, c'est une pièce sur laquelle on est quatre, donc avec Lenio Caclea et Chiara Galerani, avec qui on a construit et mis en place le spectacle.
Il y a cette idée d'être plusieurs comme ça, d'être quatre, c'est aussi l'idée de la circulation de quelque chose qui passe entre les corps.
Oui, parce que le dispositif qu'on emploie, en un sens, on devient complètement étanche à l'altérité, aux autres, on est comme encapsulé. Mais d'avoir la possibilité de montrer, même si on n'est que trois à être des sylphides, la possibilité d'avoir cette population presque, elle permet du coup de dessiner tout un jeu de relations et qu'est-ce qui se passe aussi quand on vit une expérience, mais on sait que trois ou une quantité d'autres personnes partagent aussi cette expérience-là. Et du coup, des réseaux, de dialogues, de connexions ou de types de relations apparaissent en deçà ou au-delà de ce que dans des pièces ou des plateaux ou des mises en scène d'autres mises en scène où on écrit ces relations-là. Là, c'est comme si elles doivent être à un niveau infra ou supra, mais on peut pas les maîtriser, les contrôler de la même manière. Et je pense que c'est le fait d'être plusieurs sur le plateau induit aussi la possible écriture d'empathie du spectateur au plateau, dans la mesure où cette empathie est très active sur le plateau même.
Des questions pour François Chéniaud ? Je rappelle le spectacle Sylphide, donc au pluriel. On a beaucoup de S dans les titres cette année, un peu à la manière de Wajdi Mouawad dans les spectacles du festival, à l'École d'Art pour la 25e heure ce soir et demain à minuit. Merci beaucoup.